les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. C'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour une nouvelle émission des quartiers, émission un petit peu particulière car elle vous donnera à écouter une synthèse du projet que nous avons mené tout au long de l'année autour du prix de littérature jeunesse Janusz Korczak. Celui-ci s'inscrit dans un esprit d'hommage et de filiation au grand pédagogue qui a consacré et donné sa vie aux enfants. En effet, avant la Seconde Guerre mondiale, Janusz Korczak est une des figures de la pédagogie de l'enfance des plus réputées. Il laisse son nom à la postérité pour avoir choisi délibérément d'être déporté vers Treblinka avec les enfants juifs du ghetto de Varsovie dont il s'occupait dans un orphelinat. Pour cette 6e édition du prix de littérature jeunesse, le thème retenu était le pinceau et la plume, la poésie et la peinture. L'occasion pour les enfants des écoles de La Forêt, Michelet, Joliot-Curie de découvrir la sélection des livres. Alors il y avait notamment Sous la lune, pousse les haïkus de Ryokan et illustré par Zahu. Il y avait Le rêveur de Pam Munoz Ryan. Dans les yeux d'Angèle de Cécile Roumiguer. Martin des Colibris d'Alain est illustré par Judith Gueffier, ainsi que Le vieux fou de dessin de François Place. Alors, à l'initiative de Charles Petit, coordinateur du prix, Principe Actif s'est associé depuis maintenant 3 ans aux différents partenaires que sont la librairie L'Oiseau Lire et la bibliothèque sonore d'Evreux afin d'enregistrer les lectures faites par les enfants de ces ouvrages. Mais nous souhaitions aller un petit peu plus loin en valorisant l'investissement des enfants et des instituteurs des écoles précitées. Voilà, donc vous allez retrouver dans cette émission des échanges avec les instituteurs, les porteurs de projets, les partenaires, les auteurs, des chroniques autour des livres ou des thèmes abordés dans les ouvrages, et ainsi que des extraits de lectures enregistrées. Précisons que cette émission sera co-animée par les enfants des différentes écoles qui ont participé au projet et qu'elle est enregistrée au sein de l'école Joliot-Curie. Tout de suite, nous allons retrouver Charles Petit, coordonnateur de ce prix de littérature jeunesse. Mais juste avant, on va écouter une première chronique avec Julia et Azal qui vont nous parler du prix de la vie de Janusz Korczak.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Alors, Julia et Azal, on vous écoute maintenant pour un petit texte que vous avez écrit autour de la vie de Janusz Korczak, ce grand pédagogue. Nous vous écoutons.
Bonjour, nous nous appelons et Azal. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Janusz Korczak. Janusz Korczak est né à Varsovie en 1878 en Pologne. Dès 5 ans, il confie à sa grand-mère son désir de transformer le monde afin qu'il n'y ait plus d'enfants pauvres. Pour mieux soigner les enfants, il deviendra médecin pédiatre.
Puis il construit la maison de l'orphelin qu'il organise en une sorte de démocratie. Il défend les droits de l'enfant. Et il écrit de nombreux articles, des manuels pour les enfants et fabrique un journal d'enfants. Après toute une vie au milieu des enfants, Janusz Korczak est mort au camp de déportation de Treblinka en 1942, avec 200 orphelins qu'il avait tenu à accompagner jusqu'à la fin.
Merci Julia et Azal. Je pense que les auditeurs auront compris ou appris un peu plus de choses sur la vie de ce grand monsieur, Janusz Korczak. On va inviter en plateau maintenant Charles Petit, coordinateur de ce prix de littérature jeunesse au sein des écoles de la Madeleine. Il va être interviewé par trois des enfants de l'école Michelet, à savoir Mouhamad, Ethan et Kouroufia. Alors, tout le monde est en train de s'installer petit à petit. On va inviter Charles d'abord à s'asseoir. Et puis, les enfants sont en train d'arriver tranquillement. Voilà, ils s'installent eux aussi.
Buenas tardes.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe Actif, le mix des cultures.
Voilà, nous sommes toujours dans cette école Joliot-Curie pour cette émission autour du prix de littérature Janusz Korczak. Nous recevons donc Charles Petit, coordinateur du prix au sein des écoles de la Madeleine, notamment. Et il est accompagné de Mouhamad, Ethan et Kouroufia, trois élèves de l'école Michelet, donc une des écoles de la Madeleine, qui vont lui poser toute une rafale de questions pour qu'on découvre un petit peu plus ce que c'est que ce prix de littérature jeunesse Janusz Korczak. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour cette interview ?
Oui.
Oui. Eh bien, on dit bonjour d'abord.
Bonjour. Bonjour.
Et puis, je vous laisse en compagnie de Charles, alors. Je vous laisse mener l'interview.
Bonjour, monsieur Petit.
Bonjour.
Je voudrais vous poser une question. Depuis quand travaillez-vous comme enseignant ?
11 ans. 10 ans à Joliot-Curie, ici, donc, et puis à peu près 11 ans.
Pourquoi avez-vous décidé de devenir enseignant ?
Pourquoi j'ai toujours voulu faire ce métier-là, depuis le collège, je pense. Donc la question s'est pas trop posée, j'ai fait les études en conséquence et voilà.
Pourquoi ? Quel est le livre que vous avez préféré le plus dans le prix ?
Cette année ?
Cette année ?
Depuis le début du prix, cette année. Ah, bonne question. Je les regarde, du coup, j'en profite. Le vieux foot dessin m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi Martin des Colibris. Mais sinon, je vais en profiter, je vais faire la pub pour l'année prochaine. C'est un livre qui avait été sélectionné la toute première année et qui va peut-être être sélectionné l'année prochaine, on ne sait pas encore, mais il y a des chances. C'est Les 1000 oiseaux de Sadako. C'est un superbe livre et c'est mon livre préféré de jeunesse.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le prix cette année ?
Qu'est-ce qui m'a... Alors, comme tous les ans, j'aime beaucoup la sélection. J'aime bien aussi le fait que les livres qui sont sélectionnés ne sont pas que des romans, mais il y a de la poésie, il y a des albums. Cette année, donc, c'était des haïkus, par exemple. Il y avait l'album Martin des Colibris. On avait donc un album un peu romancé comme Le Vieux Foot Dessin. Il y a à la fois des dessins, mais il y a aussi du texte. Et puis après, des livres un peu plus conséquents comme Le Rêveur. Donc voilà, c'est toute cette sélection qui est assez riche, qui me plaît et qui est en même temps abordable. Est-ce que vous avez eu des difficultés à les lire, ces livres, ou vous avez trouvé quand même qu'ils étaient assez simples d'accès ?
On a trouvé qu'ils étaient assez simples, mais un peu difficiles à lire, les deux.
Un peu difficiles ? Lesquels, les deux ? Lesquels t'ont paru les plus difficiles ?
C'était dans Les yeux d'Angèle, parce qu'elle était longue.
Oui.
Et il n'y avait pas beaucoup d'images, en plus.
Ah oui, c'est vrai. Et Le Rêveur aussi était assez long.
Oui, mais...
Mais il y avait des images, c'est vrai.
Pourquoi avez-vous choisi de participer à ce prix ?
Je participais avant, au tout début, au prix des dévoreurs de livres, donc un autre prix de littérature jeunesse. Mais justement, comme je disais juste avant, la sélection était un peu trop difficile à mon goût. Et donc j'étais arrivé un petit peu, on va dire, à fatiguer, on va dire, de ce prix-là. Et le prix Janusz Korczak me plaisait parce que, comme je vous l'ai dit, il était assez riche, il y avait différents types d'ouvrages sélectionnés. La sélection était assez simple, assez facile pour les élèves. Et puis, il y a un point aussi qui est quand même super important, c'est les thèmes qui sont abordés dans le prix, qui me semblent très très importants. Donc là, l'année prochaine, justement, le thème choisi, comme tous les trois ans, c'est l'enfance et la guerre. Et quand on est enseignant, c'est bien pratique d'avoir des livres qui rentrent un petit peu dans le programme. Donc de parler d'histoire, mais par le biais de la littérature, ça c'était un truc qui me plaisait beaucoup. Voilà, que les enfants puissent s'identifier un petit peu aux différents héros des romans ou des livres sélectionnés. Et souvent, ça, je sais pas, on verra bien l'année prochaine. Est-ce que ça vous plaît, vous, de rentrer dans la peau du personnage, du héros ? Est-ce que ça vous permet, des fois, quand ça parle de choses vraies, de mieux comprendre l'histoire, ce qui s'est passé ?
Oui.
Ouais, par exemple, dans quel livre, toi, ça t'a déjà fait ça?
Moi, dans Le Vieux Fou de Dessin.
Le Vieux Fou de Dessin. Tu t'es mis dans la peau de Tojiro Dokusai?
De Tojiro.
De Tojiro, d'accord.
Depuis quand êtes-vous graffeur?
Ah, t'as repéré le poisson dans le fond de la classe. Comment tu sais ça? Comment tu sais que je peins?
C'est la maîtresse qui nous l'a dit.
Ah, d'accord, il y a des fuites. Depuis, tu m'as dit quoi? Depuis quand?
Êtes-vous graffeur?
Ah, ça fait 16 ans. 16 ans exactement. Plus qu'une petite année, j'aurais passé la moitié de ma vie à peindre.
Quel genre de graphe faites-vous?
Un peu de tout. J'aime, du coup, avec mon métier et les livres que je peux découvrir, j'aime beaucoup tout ce qui est illustration pour enfants. J'aime beaucoup la couleur. Après, j'aime bien faire aussi des lettrages. Ça dépend les périodes. Il y a des moments où je vais plutôt faire des personnages, d'autres plutôt des paysages. Mais j'ai besoin quand même de revenir au lettrage. À chaque fois, on va dire que ça tourne en fonction de mon humeur, hein, en fonction des périodes. Donc, je fais un peu de tout.
D'accord.
Du moment qu'il y a de la couleur.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Merci Mohamed, Ethan et Kouroufia. Merci aussi à Charles Petit pour cet échange qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus et sur le métier et les passions de Charles, mais aussi autour du prix de littérature jeunesse Janusz Korczak. On va retrouver maintenant une chronique autour de Pablo Neruda, une chronique écrite et lue par Maxime, Yasmine et Salma. Voilà, le temps que le plateau d'avant se change et celui d'après arrive, une petite virgule.
Ce qu'il faut éliminer, c'est cette mollesse de langage qui fait qu'on parle de quelque chose sans définir exactement de quoi on parle.
Voilà, nous retrouvons Maxime, Yasmine et Salma. Bonjour à vous les enfants.
Bonjour.
Bon, ça va bien?
Oui, ça va.
Ok, vous nous avez préparé une chronique autour de la vie de Pablo Neruda, c'est bien ça?
Oui.
Bon, bah, on vous écoute alors.
Nous appelons
Maxime,
Yasmine et Salma. Nous allons vous présenter le génial poète Pablo Neruda. Nous parlons de lui pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous avons lu un livre qui nous a raconté son enfance. Ce livre s'appelle Le Rêveur. Ce livre a fait partie du prix Janusz Korczak.
En plus, l'année prochaine, nous allons au collège Pablo Neruda. Pablo Neruda est d'origine chilienne. Il est né en 1904 à Parral. Il est mort à 69 ans en 1973 à Santiago. Il est connu pour beaucoup de raisons.
C'est un poète, un écrivain et un diplomate et une personnalité politique. Dans le livre Le Rêveur, nous avons appris que l'enfant, Pablo Neruda s'appelait Neftali. Il aimait rêver et collectionner des objets qu'il trouvait par terre. Il s'inventait aussi des mondes imaginaires.
Merci de nous avoir écoutés.
Et ben merci à vous, Maxime, Yasmine et Salma. Pour cette chronique voilà, qui nous a sûrement permis d'en apprendre un petit peu plus sur la vie de cet auteur Pablo Neruda et homme politique. On change de plateau avec une petite virgule.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur?
Principe actif. 102.4 FM.
Voilà, 102.4 FM. Nous sommes toujours en train d'enregistrer cette émission au sein de l'école Joliot-Curie à la Madeleine. Émission consacrée au prix de littérature jeunesse Janusz Korczak. Un des thèmes qui était abordé était dans le livre Le Rêveur, dans cette sélection, tourné autour de la vie de Pablo Neruda. On vient d'écouter une chronique autour de cette personne. Et on s'est intéressé aussi un petit peu à la musique chilienne. Et là, tout de suite, en plateau, j'accueille Lorena et Clara, qui, je crois, ont écrit et vont nous lire une petite chronique autour de Violeta Parra. Est-ce que je me trompe?
Non.
D'accord. Eh bien, tout va bien alors. On va pouvoir écouter, du coup, Lorena et Clara autour de cette chanteuse et poétesse chilienne qui s'appelle Violeta Parra. Nous vous écoutons.
Violeta Parra.
On va vous présenter la chanson Gracias a la vida, qui signifie merci à la vie. La chanson a été écrite, composée et créée par Violeta Parra. Violeta Parra est née en 1917 et elle est morte en 1967 à Santiago du Chili. Elle utilisait principalement une guitare. Violeta Parra a réinventé la musique folk chilienne. Gracias a la vida, une chanson douce, c'est une chanson populaire au Chili.
On va vous présenter des haïkus réalisés par l'école de la forêt, inspirés du livre Le Rêveur sur l'enfance de Pablo Neruda.
Mais on va d'abord écouter la chanson Gracias a la vida et on retrouve le haïku juste après.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias a la vida de Violeta Parra.
On va vous présenter des haïkus réalisés par l'école de la forêt et inspirés du livre Le Rêveur sur l'enfance de Pablo Neruda. Puis à partir du livre Sous la lune poussent les haïkus de Zahu. Un bout de bois, un livre et tout s'envole dans un rêve. La forêt réserve des choses merveilleuses et des secrets. Je suis la poésie, ma matière encerclant le rêveur, je capture l'esprit. Une graine plantée dans la lune obscure, un arbre d'haïkus. La lune, un arbre des haïkus.
Merci Clara pour ces lectures de haïkus. Nous allons retrouver notre invitée, une de nos invitées, Annie Falzini de la librairie L'Oiseau Lire. Et elle va être interviewée par Ilona, Elena, Mohamed, Lévi et Lénie. Voilà, ils viennent de prendre place autour des micros. Bonjour à vous les enfants.
Bonjour.
Voilà, ben je vous laisse en compagnie de Annie Falzini pour lui poser vos questions.
Depuis quand avez-vous la librairie ?
Depuis 21 ans. On a fêté les 20 ans en septembre.
Comment trouvez-vous le prix Corzac ?
Ah, ça dépend ce que tu entends par comment trouvez-vous le prix Corzac. Disons que comme je suis une des organisatrices, je trouve ce prix super important, forcément. Et ce que je trouve super important, c'est d'être comme je le suis aujourd'hui, avec des enfants qui lisent de bons livres, de beaux livres, avec des enseignants super motivés. C'est vraiment un prix qui me tient très, très, très à cœur, ainsi qu'avec Lal Herrera, qui est à l'origine du prix avec moi. Ce qui est important dans ce prix, c'est tout ce que l'on fait autour des enfants. L'enfant au centre d'un roman, l'enfant au centre des droits de l'enfant, et ça, c'est super important.
Pourquoi avoir choisi de travailler en librairie ?
Parce que j'aime les livres, j'aime lire et j'aime partager ma passion. Et si j'ai choisi la librairie jeunesse, c'est parce que les enfants ont encore plus besoin d'être accompagnés. Les parents connaissant peu les livres, les bons livres pour enfants. Et quand on donne envie de lire à des enfants, on en fait des lecteurs adultes.
Pourquoi avoir choisi le nom L'Oiseau Lire pour la librairie ?
L'Oiseau Lire, c'est en référence à un poème de Prévert, qui est un poète que j'aime énormément.
Et aimez-vous la librairie ? La littérature ?
Oui, j'aime la littérature, j'aime énormément, je dévore les livres. Disons qu'on ne peut pas être un bon libraire si on n'aime pas lire et partager. Donc j'aime vraiment lire depuis que je suis toute petite.
Avez-vous un métier avant de travailler à L'Oiseau Lire ?
Oui, j'étais bibliothécaire, donc j'étais déjà dans les livres.
D'accord.
Merci.
Merci.
Merci les enfants.
Merci à vous Annie Falzini et merci les enfants. Et voilà, on entend des petits bruits de chaises. On va changer de plateau pour la suite. On va retrouver une chronique qui va nous raconter le jour de la remise du prix. On va donc retrouver Anthony, Lévi et Alexandre.
Ce qu'il faut éliminer, c'est cette mollesse de langage qui fait qu'on parle de quelque chose sans définir exactement de quoi on parle.
Voilà, la remise du prix a eu lieu à Aubevoye, il y a un petit mois déjà. Et Anthony, Lévi et Alexandre vont nous raconter comment s'est passée cette journée pour eux, ce qu'ils y ont vu, ce qui leur a plu, etc. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour votre petit récit ?
Oui.
Oui ? Eh bien, je vous en prie.
Bonjour, nous allons vous présenter notre journée à Aubevoye pour la remise du prix Janus Korjak. Aubevoye se situe à 30 km d'Évreux. Nous y sommes allés en bus.
Voici les livres que nous avons lus pour le prix. Sous la lune poussent les haïkus, Dans les eaux d'Angèle, Martin des Colibris, Le Rêveur, Le Vieux Fou de Dessin. Nous avons rencontré Zahu en vrai et il nous a dessiné des chefs-d'œuvre artistiques.
Il s'est présenté réellement et il a répondu à nos questions.
Il a peint devant nous 4 tableaux à l'encre noire. Il prenait son pinceau et puis il dessinait. C'était impressionnant. Le midi, nous avons pique-niqué dans un parc et puis nous sommes allés voir qui avait gagné le prix Janusz Korczak en Normandie. C'était Martin des Colibris qui a gagné. Une classe a fait un spectacle de danse. Nous avons fait une flash poésie. Tout le monde a applaudi. Une flash poésie, c'est comme une flash mob, mais en poésie. C'était une belle journée. Nous vous remercions.
Eh ben c'est nous. Merci à vous, Anthony, Lévy et Alexandre, de nous avoir raconté cette petite journée. On retrouve, juste avant une prochaine pause musicale, Zora et Gwendoline qui vont nous raconter un petit peu des petites choses sur Gilberto Gil, qui sera la prochaine pause musicale, musicien brésilien évidemment. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Ah, donc vous allez nous raconter, vous allez nous parler de quoi?
De Gilberto Gil, La Roda.
Très bien, et ben on vous écoute du coup. Le temps que les feuilles se déroulent.
La Roda. La musique que vous allez entendre s'intitule La Roda, surnommée La Capoeira, qui a été écrite et composée par Gilberto Gil. En français, cela veut dire la ronde, car au milieu du 19e siècle, il y avait des esclaves voulant se battre, mais comme ils ne voulaient pas s'entretuer, ils décidèrent d'introduire de la danse. C'est à ce moment que La Roda a été créée.
On dit La Roda, car lors des battles, les personnes admirant le spectacle se mettaient tous en ronde et deux personnes au milieu commençaient le combat de danse. Les fondateurs de la capoeira sont les esclaves afro-brésiliens. Dérivée de la lutte africaine, la musique est composée d'instruments brésiliens et africains. Nous vous avons présenté La Roda de Gilberto Gil. Par la suite, après avoir écouté la musique, nous allons vous lire des haïkus inspirés du livre Martin des Colibris.
Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto, e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo e diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz.
Gilberto Gil. Et tout de suite, on va écouter des haïkus de Zora et Gwendoline.
Mille couleurs volent dans le ciel, Martin les observe. Une fille agile, dans les arbres tombants, regardez les couleurs voler.
Une petite fille,
imitant des colibris, une voix magnifique. Martin regarde les oiseaux de toutes les couleurs. Ils s'envolent. L'oiseau multicolore déploie ses ailes et vole.
Dans la forêt, beaucoup de couleurs dans le ciel, des oiseaux. Imaginez de ne voir que la nature.
Un petit garçon avec plein de rêves, volant dans les airs.
Merci mademoiselle pour ces haïkus. On va écouter tout de suite une interview qui a été réalisée lors de la remise du prix à Aubevoie. Une interview de l'illustrateur Zahu qui illustre Sous la lune pousse les haïkus, un des livres de la sélection du prix de littérature jeunesse Janusz Korczak. On écoute Zahu.
À quel âge avez-vous commencé à illustrer ?
J'ai fait un premier livre qui était le premier livre de l'école des loisirs. Je l'ai fait quand j'étais au service militaire, je devais avoir 21 ans. Hein. Et puis après, je suis rentré à la publicité, donc j'ai plus fait de livre. Hein. C'est-à-dire que celui-là, j'avais 21 ans, mais après, j'ai recommencé à travailler pour les éditions jeunesse, on va dire au travers de Bayard, tout ça. Là, dans les années 80, je devais avoir... une bonne quinzaine d'années de plus, quoi. Donc ça fait 21 plus 15, 36, voilà. Hein. Mais j'ai continué à faire de la publicité en même temps, parce qu'il fallait bien gagner sa vie, j'avais 3 enfants, et les livres, c'était pas forcément... Bah, c'est pas parce que tu fais une double page dans un strapi que tu gagnes ta vie. Hein.
Qu'est-ce que vous faisiez avant de illustrer ?
J'ai travaillé donc beaucoup dans la publicité, dans un travail de dessin. J'avais un oncle, c'était un nom américain, un métier américain qui arrivait, c'était Rothman. Hein. Et après, il y a eu la télé qui est arrivée, donc j'ai fait des storyboards hein, que tout le monde connaît. Tous les films que tu vois à la télévision, ils sont tous dessinés avant. Hein. Même s'ils durent 10 secondes, 15 secondes, 8 secondes, il y a un dessin par plan. Hein. Donc il y a 10, 15, 20 dessins pour dessiner. Qu'est-ce qu'on va filmer hein. Et c'était pareil à ce moment-là pour toutes les affiches, les magazines, les annonces dans les journaux, tout ça. Tout ça, c'était dessiné avant, rapidement, hein, très rough. Rough, ça voulait dire un peu esquisse, un peu ébauché. Quoi. Donc j'ai pris l'habitude de dessiner vite. Hein. Et ça, je crois que j'ai gardé cette notion de dessiner vite parce que ça, c'est pas meilleur quand je dessine moins vite. J'ai mieux refaire que de dessiner moins vite. Et donc j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, quoi, de faire des roughs, voilà. Mais ça n'existe pratiquement plus, sauf les films, parce que l'ordinateur et les banques d'images ont remplacé ça.
Qu'est-ce qui vous a inspiré dans les illustrations ?
Au départ, il y a toujours une histoire, hein, il y a toujours un texte. Donc ça, c'est la première inspiration. Il faut que tu colles à cette inspiration-là. Hein. Après, moi, je pense que je me suis beaucoup servi de tout ce que j'ai vu. J'ai beaucoup voyagé et on s'aperçoit si on regarde mes livres que beaucoup de choses se passent en Afrique et plutôt dans pas mal de pays tropicaux parce que j'ai beaucoup dessiné là-bas et que ça m'a servi après à dessiner des bouquins qui se passent en Afrique. Mais j'ai pas été en Afrique pour les faire. J'étais en Afrique avant, puis après je peux faire des histoires qui se passent en Afrique sans problème, même Mandela. Voilà. Alors que j'ai pas été en Afrique du Sud, mais j'ai regardé un petit peu comment c'était, si c'était un peu différent de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Kenya, tout ça. Quoi. Bon, il y a un petit peu plus d'architecture européenne parce que c'était des blancs qui ont construit ça. Quoi. Mais c'est a priori quand même un peuple africain.
Est-ce que les écritures japonaises sur le côté du livre des haïkus sur les traductions en français ?
Non, c'est la traduction japonaise. En fait, au départ, c'est des haïkus japonais qu'on a traduit en français pour que vous puissiez les lire, hein, parce que tu ne lis pas le japonais, non ? Non, moi non plus. Et donc, comme les Japonais, ils écrivent verticalement ou à l'envers, comme ça, quand même, de gauche à droite. On les a mis verticaux comme ça, ce qui est très joli, parce qu'ils sont sur le bord du livre, comme ça. Ça, c'est le texte japonais du haïku. Et après, il y a le texte en français, qui est la traduction.
Quelle est l'illustration que vous préférez ?
Dans ce livre-là ? Ou dans tous mes livres ?
Dans tous
vos
livres.
Oula, ça c'est dans difficile. Parce que dans ce livre-là des haïkus, c'est vrai que j'ai une grande affection pour le cheval. Parce que je l'aime bien. Mais je les aime bien toutes, même il y en a eu du mal à faire. La dernière avec le voleur, avec la lune, hein. C'est un peu particulier, mais le cheval j'aime bien. D'ailleurs, je l'ai redessiné là. Dans tous mes livres, je sais pas. Dans le dernier, les animaux, il y a deux ou trois images que j'aime particulièrement. J'ai réussi à dessiner une lionne comme ça, qui passait, c'était à Beauval, qui passait devant moi et qui tournait dans sa cage, mais qui, à chaque fois qu'elle passait devant la vitre, me jetait un œil comme ça, et j'ai eu l'impression de pouvoir capter ce regard. Et puis un gros gorille qui est couché par terre, que j'aime beaucoup aussi, parce que là aussi on a dû passer un bon quart d'heure à dessiner accroupi et lui couché derrière la vitre, hein. Et puis il y en a encore un autre, c'est le lotari, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a plein, hein, j'aime bien. Pas toutes, mais il y en a quand même beaucoup.
Pourquoi dans le livre des haïkus, vous utilisez beaucoup de couleurs très foncées?
Ben, parce que c'est au départ, je suis parti de langue de Chine surtout. Ils sont plus grands, hein. Des fois ils sont grands comme ça, les dessins. Hein. Après ils sont réduits en petits comme ça, mais c'est des grands dessins. Et c'est peut-être là que j'ai expérimenté le plus le langue de Chine et l'eau. Hein. Par exemple, il y en a un où il y a un nuage où il pleut, là, je sais pas si tu vois, il y a un gros nuage. Hein. Au départ, c'était une tache. Hein. J'ai mis beaucoup d'eau, puis j'ai mis dedans, et ça fait une énorme tache. Donc je l'ai laissé sécher. Là. Et puis une fois qu'il a été sec, je me suis dit, tiens, si je prends que le bas de la tache, ça va me faire un nuage avec la pluie. Hein, parce que ça partait comme ça, psh, hein, et ça faisait bien la pluie. Donc c'est dans ce livre-là, je crois que j'ai expérimenté pas mal de choses à la japonaise, on va dire, tu vois, parce que j'avais pris un papier qui boit beaucoup, hein. J'ai essayé des papiers japonais, papiers chinois, machin. C'est pas forcément facile parce que quand il y a de l'eau ou de l'encre, ça passe au travers. Hein. Donc il faut que tu mettes un autre truc, un autre papier en dessous. Des fois, ça reste collé, tout ça. Bah. Mais ce qui est intéressant dans tout ce travail, c'est l'eau et l'encre. Puis après, j'ai rajouté quelques couleurs quand même, un peu de vert, un peu de rouge, un peu de... Hein. Mais c'est surtout du noir. C'est vrai que tu as raison, il est assez foncé.
Quel procédé utilisez-vous pour vos illustrations?
Ben, j'aime bien en changer. J'aime bien changer parce que j'ai que le bouquin qui a le... Je dis bouquin, le livre, hein, l'album qui a le plus marché chez Rue du Monde, c'est un livre de cuisine, une cuisine grande comme le monde. Et c'était au pastel gras. C'était un grand album, ça, au pastel gras. Et il a très très bien marché commercialement. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vu mon livre en librairie et même en vitrine. Donc j'ai dit, tiens, j'existe. Et puis après, j'ai fait un autre livre au pastel sec. Puis après, j'ai fait des trucs comme Mandela, c'est du langue de Chine, et l'acrylique derrière, avec une cuisine un peu. C'est-à-dire que je fais un dessin en noir, puis après, je fais une photocopie sur un film transparent, et je peignais à l'acrylique derrière le film. Ça me permettait de déborder. C'est une chose que j'ai beaucoup fait. Et puis langue de Chine, et les encres, et puis beaucoup d'eau, voilà. Mais peut-être que ça va pas durer fortement. Langue de Chine, je pense que oui. Mais après, je vais peut-être rajouter des choses, je vois, j'en sais rien. J'aime bien changer de technique.
Voilà, vous venez d'écouter une première partie de l'interview de Zahu, illustrateur du livre « Sous la lune ». Pousse les haïkus, un des livres de la sélection du prix de littérature jeunesse Janusz Korczak. Cette interview était réalisée par Mouhamad, Shaima, Nour et Marley, des enfants de l'école Michelet. On va retrouver d'autres enfants qui vont nous parler de ce que sont les haïkus, puisqu'on en a écouté certains, d'autres les ont illustrés. On vient d'en entendre un illustrateur qui nous racontait un petit peu son travail, qui nous parlait un petit peu de son travail. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que sont les haïkus. On va pour cela retrouver Kylian, Ali et Youssouf. Bonjour messieurs, je vous laisse la parole.
Bonjour, nous nous appelons
Youssouf,
Kylian
et Ali.
Nous allons vous parler d'haïku. Un haïku, c'est un poème japonais. Il est court, il a trois vers, pas plus.
Nous avons lu un livre des haïkus qui s'appelle « Sous la lune pousse les haïkus ». Nous allons vous lire quelques haïkus écrits par des élèves de CM2. Une grosse plage, un petit crabe, une grosse peur. Un gros coup de tonnerre, la pluie tombe, plus personne dehors. Les haïkus sont très courts.
Ils sont une photographie d'un instant vécu. Souvent, ils parlent de la de la nature. On les écrit pour faire partager une émotion. Nous l'avons conclu en vous lisant un dernier haïku. Toile de rosée, l'araignée a tissé la lumière du matin.
Merci Kylian, Ali et Youssouf de nous avoir d'avoir éclairé un peu notre lanterne sur ce que sont les haïkus. On va maintenant retrouver un autre enfant, Dylan, qui lui a travaillé autour de l'ouvrage Sous la lune pousse les haïkus, illustré par Zahu. On en a déjà un petit peu parlé. Et Dylan va nous donner son impression, son ressenti autour de cet ouvrage. Bonjour à toi, Dylan.
Bonjour. Et
ben on t'écoute.
Je vais vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Dylan. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Sous la lune pousse des haïkus. Il a été illustré par Zahu, qui a fait de très belles illustrations. Ce livre a été écrit par Ryokan. Ryokan est un poète japonais qui écrivait des haïkus. Je vais vous en lire quelques-uns. La pluie du printemps visite un ami, j'y pense aujourd'hui. Le vent de l'été apporte dans ma soupe des pivoines blanches.
Merci Dylan de nous avoir parlé de Sous la lune pousse les haïkus et d'avoir pu nous lire aussi, toi aussi, quelques haïkus. On va retrouver Amine et Corentin qui, eux, ont travaillé une chronique autour de la musique japonaise. On va s'écouter cette chronique après un petit peu de musique japonaise et puis on reviendra en plateau avec eux pour quelques haïkus encore en supplément. Bonjour Amine et Corentin.
Bonjour.
Eh bien, on vous écoute.
Le sakura. La chanson que vous allez entendre est un medley autour du thème du sakura, recueil de chansons, avec un ensemble de kotos. Les kotos sont les instruments traditionnels japonais. Le sakura est une fleur de cerisier, un symbole de beauté éphémère au Japon et étroitement associé aux samouraïs et aux bushis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sakura était un symbole qui aidait à motiver le peuple japonais. Les pilotes d'avions nippons les peignaient sur les flancs de leurs avions.
Laisse-le un petit peu. Tu sais, pour que ça fasse quand même une pause musicale, mais je crois qu'il est très long. Ouais. Bon. Tu laisses encore une. Non, il fait pas autant. J'y sais, laisse une minute encore et Amine reprend dessus. D'accord? Ouais. T'as fini, Corentin? Ok. Mariam, Mathilde et Fama, c'est ça. Je te lance, d'accord? Dommage qu'on ait pris 25 minutes de retard. On y retourne ?
Voilà, musique japonaise avec un medley sakura. On va retrouver Amine, il va nous lire un petit haïku pour nous détendre un peu plus. Amine, nous t'écoutons.
Bonjour, les haïkus que je vais vous présenter sont autour du livre Le vieux fou de dessin et du Japon. Les haïkus sont faits par l'école de la forêt. Des pinceaux sur les feuilles, que du bonheur. Les pinceaux caressent sa feuille avec ses couleurs. Les boulettes de riz, en une rencontre, se transforment en pinceaux. Une boulette de riz se transforme une histoire magnifique. L'encre se posant sur la vague de Kanagawa.
Merci Amine pour ces haïkus. Ouais. On va retrouver une chronique autour de l'illustrateur Zahu. Vous avez écouté tout à l'heure une partie de l'interview que nous avons réalisée lors de la remise du prix à Janusz Korczak à Aubevoie. On va en apprendre un petit peu plus avec Mariam, Mathilde et Fama qui sont avec moi en plateau. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Eh bien, je vous laisse la parole.
Bonjour à tous. Nous nous appelons Mathilde,
Fama et Mariam.
Nous allons vous parler d'Ésaü parce que nous avons lu plusieurs de ses livres pour le prix Janusz Korczak.
Son vrai prénom est André Langevin. Il est né en 1943. Il est originaire de Rennes. Il a commencé à dessiner en maternelle. Il a illustré de nombreux livres, au moins 75. Nous avons lu par exemple
« Sous la lune pousse les haïkus », « Le petit cutou blanc du lièvre », nous l'avons vu dessiner. Au début, cela ne donnait rien. À la fin, est apparu un dessin. Nous trouvons son travail merveilleux.
Ben merci Mariam, Mathilde et Fama pour cette chronique. Ce que je vous propose, c'est qu'on on écoute la deuxième partie de l'interview de Zahu, réalisée toujours à Aubevoie, par Mouhamad, Shaima, Nour et Marley.
Faites-vous essentiellement de l'illustration ?
Quelqu'un a un jour un enfant qui m'a demandé « Est-ce que tu fais des tableaux ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas si je fais des tableaux ou je fais des dessins qui sont sur du papier, qui peuvent être très grands. J'aime bien dessiner grand. Hein. 70, 100, c'est des grandes feuilles comme ça. On peut les encadrer, hein, ça devient un tableau. Hein. Mais ce n'est pas des toiles. Je dessine pas sur toile. Un jour, je me suis dit, quand je serai grand, je ferai de la peinture, mais je crois que ça ne vient pas. Donc, je reste sur du papier, mais j'aime bien dessiner sur des grandes feuilles. Là. Tu vois, les feuilles, je les ai mis en deux parce que j'aurais bien aimé qu'elles soient plus grandes. Hein. Voilà. Donc, j'aime bien les grandes feuilles parce que ça, il y a une espèce des gestes qui sont plus grands. Peut-être avec un chiffon aussi, puis reprendre des détails comme ça, avec un petit pinceau. J'aime bien. Alors que c'était une petite feuille, c'était forcément tout petit. Voilà.
Avez-vous déjà exposé votre œuvre ?
Oui, il y a pas mal de... Alors, c'est pas forcément moi qui m'en occupe. Rue du Monde a des... Je sais plus, c'est trois expositions. Une sur la cuisine, une autre sur les différentes techniques, et puis encore une autre, j'en ai une autre sur Mandela, hein, qui s'est promené toute tout l'automne, hiver dernier dans les bibliothèques à Paris, bibliothèques jeunesse. J'en avais une aussi chez Bulle de Savon qui s'est promené aussi un peu. Non, en général, c'est pas moi qui m'en occupe parce que c'est... Parce qu'il faut les trimballer, il faut les envoyer, il faut qu'il y ait un machin. Enfin bon, c'est un peu particulier, quoi. Mais ça fonctionne tout seul, quoi. Donc ça m'arrive d'aller dans des endroits où dans un salon où je dois intervenir pour faire des dédicaces, rencontrer des classes, et puis il y a une expo, vous avez eu en même temps. Là.
Avez-vous seulement écrit des livres de poésie ?
Non, c'est presque plus l'inverse. Au départ, j'étais pas du tout sur la poésie. Je pense que je suis encore assez extérieur à la poésie. Mais bizarrement, j'ai quand même fait quatre bouquins de poésie. Donc c'est très curieux parce que ça m'a posé une question. Qu'est-ce qu'on dessine sur de la poésie, hein? Parce qu'a priori, la poésie n'a pas forcément besoin d'images. Hein? Et en même temps, je pense que vis-à-vis des enfants, s'il y a des images, ça aide plus à lire de la poésie. Hein? Alors le premier, c'était La cour couleur, c'était des textes sur la différence, quoi. Fait par des grands poètes. Après, il y a eu Le pleut des poèmes. Après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu les haïkus. J'en ai fait un autre chez Bulle de Savon, c'est Poète, qui êtes-vous ? Ça, c'était les portraits des grands poètes avec un poème en plus. Ben bon, je trouve que je travaille beaucoup là-dessus, alors que c'est pas mon terrain au départ. Hein. Je suis plus dans le réel, je suis plus dans les voyages, des choses comme ça, mais je me suis aperçu que ça fonctionne assez bien. Quand tu as une poésie, c'est difficile de... Tu vois, souvent, il y a plusieurs idées à la fois, même dans un haïku. Hein. Donc, qu'est-ce que tu exprimes ? Il ne faut pas chercher forcément à illustrer directement le haïku. Il hein. Faut essayer de l'évoquer sans être... c'est pas comme une histoire que tu racontes. Hein. Donc, ça peut être juste simplement quelque chose, je dirais presque des tâches, mais un peu plus subtil que des tâches, quand même, mais qui te... donne envie d'en savoir plus, quoi, de lire plus.
En tant qu'illustrateur, travaillant pour les éditions jeunesse, la littérature jeunesse, est-ce que vous,
quelque part, vous percevez comme un ambassadeur du droit des enfants. Est-ce que ça a un sens particulier pour vous ?
En travaillant pour du monde, certainement. Certainement, parce que moi, j'ai illustré un bouquin sur la Convention des droits de l'enfant. Donc, je sais de quoi ça parle. Il y a 54 articles, il me semble. Ce qui était étonnant dans cette convention, je recite un petit truc de mémoire comme ça, c'est qu'il y a deux pays, c'est signé par 100 et quelques pays, je ne sais pas, et dont deux pays qui n'ont pas signé, les États-Unis et la Corée du Nord, je crois. La Corée du Nord, on peut le comprendre, c'est quand même une dictature. Les États-Unis, ça fait drôle quand même, c'est quand même une démocratie. Sauf que, comme il y a une cinquantaine d'États, il y a des États où la peine de mort est autorisée pour des enfants, pour des ados, hein, qui ne sont pas majeurs. Hein. Donc, comme tout ça s'est relié aux États-Unis, ils n'ont pas pu signer la convention. Hein. Ça m'a dérangé, ce phénomène-là. Hein. Après ça, j'ai essayé de mettre des images sur les droits de l'enfant. C'est pas si simple. Hein. C'est pas simple. Hein. Ça m'a demandé un gros travail de... Parce que là, autant la poésie, on peut être sur une évocation légère. Sur les droits des enfants, faut arriver à faire passer du sens. Hein. C'est un article de loi, c'est un article très précis. Quoi. Quand les enfants, ils ont le droit d'aller voir leurs parents s'ils sont pas dans le même pays, tout ça. Donc, ils ont le droit de sortir du pays pour aller voir leurs parents et revenir, ça. C'est pas n'importe quoi. C'est une notion douanière, quelque part. Hein. Donc, il faut arriver à trouver des images simples, mais qui disent des choses comme ça. Quoi. Donc ça a été un bouquin qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de réflexion. Et c'est pas un bouquin facile, parce que c'est comme la Convention des droits de l'homme, c'est tous les articles de loi. Hein. Rue du Monde a fait deux bouquins. Moi j'ai fait celui avec justement avec la Convention. C'est comme si vous lisez des trucs de les articles numéro 1, article numéro 2, article numéro 3. Hein. Bon, c'est pas très fun, mais bon. Mais c'est important que ça existe parce qu'on peut s'y référer, quoi. Chercher qu'est-ce qu'on dit là-dessus, qu'est-ce qu'on dit sur justement le droit des enfants, sur le fait de sortir du pays par rapport à leurs parents, ça. Le droit à l'éducation aussi, ça paraît presque banal chez nous parce que certains enfants pensent que c'est une punition alors que c'est un droit. Hein. C'est important quand même qu'ils aient le droit à l'école systématiquement. Bon, on en a fait une obligation, mais c'est avant tout un droit. Hein. Et dans beaucoup de pays, il y a plein de mômes qui ne sont pas à l'école. Moi, à Djibouti, des classes où il y avait 50 gamins le matin, 50 toute l'après-midi, c'est pas les mêmes, et plus tous ceux qui n'allaient pas à l'école, parce que c'est tellement de gamins qu'il n'y a pas assez de profs, pas assez de classes. Hein. Puis ceux qui sont trop pauvres, ben, ils vont pas à l'école. Hein. Donc ça pose des questions quand même sur ces droits, et bon, je suppose qu'ils ne sont pas respectés totalement partout, parce qu'on n'a pas de gens pour les faire respecter ça tout le temps. Hein. Puis aller intervenir dans les pays étrangers, un peu sous tutelle policière ou militaire, c'est pas si facile que ça non plus. Voilà. Mais néanmoins, ils ont signé quelque chose et ils sont un peu plus ou moins tenus de les respecter. Voilà. Et je pense que ça, quand ça existe, et après on avance. Hein. Un peu comme l'Europe, c'est pas forcément bien, mais c'est bien que ça existe. À mon avis, il vaut mieux faire évoluer que de supprimer. Hein, voilà, j'ai un petit rappel là. On fait une erreur de dire c'est pas bien. Il y a plein de choses pas bien, mais il faut y travailler. L'UFM était critiqué, c'était pas assez bien pour la formation des profs. On aurait pu l'améliorer plutôt que la supprimer. Hein. Il y a des choses comme ça que je trouve assez stupides, entre parenthèses. Voilà.
Merci à vous, Zahu, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des enfants et aux miennes. On rappelle que vous êtes l'illustrateur du livre « Sous la lune, pousse les haïkus », sélectionné dans ce prix de littérature jeunesse Janusz Korczak. Merci à vous encore.
Merci.
Quatre chevaux Renault. Il manque un essuie-glace, un tout petit Delco, on se retourne quand je passe au Taco Blues. Je roule un Taco Blues. Pas très gros ce mécano, il m'a enfilé son vieux taco.
Je me traîne sur la grande route, je dépasse pas de 60. Interdit d'autoroute, c'est un gouffre à essence. Taco blues, je roule un taco blues. En main d'accord avec Stadrouille, ce garagiste m'a fait des fouilles. Je me sens comme sur des œufs, je me crampe au volant prêt pour le tête à queue. Taco blues, je roule dans un taco blues. Je rêvais d'une Ferrari, c'est un taco que je conduis. Je passe chercher la petite Gisèle. Aussitôt elle tord le nez, non mais t'as vu ta poubelle? Taco blues, je roule dans un taco blues. Je rêvais d'une Ferrari, c'est un taco que je conduis. Je rêvais d'une Ferrari, c'est un taco que je conduis.
Jean Claverie avec le morceau Taco Blues. C'était un petit clin d'œil au prix de l'année dernière, Janusz Korczak, puisque Jean Claverie était l'auteur d'un des livres sélectionnés dans la sélection de l'an dernier, Little Lou. Et on va retrouver une chronique, mais juste avant, Annie Falzini de la librairie L'Oiseau Lire voulait préciser une petite chose.
Donc là, on va nous parler du vieux foot dessin. Et à Aubevoie, on avait décerné le prix à Martin des Colibris pour la Normandie et pour la France entière. C'est le vieux foot dessin de François Place qui a remporté le prix Janusz Korczak pour cette année. Donc la remise des prix a eu lieu à Paris et François Place était super content. Voilà.
Merci Annie pour cette précision. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit au cours de cette émission. On s'est concentré, nous, avec les classes et les enfants, notamment de la Madeleine et d'Evreux, mais c'est un prix national. Donc plusieurs écoles et plusieurs régions sont concernées par ce prix. On retrouve Marvin, Salim et Mehdi pour nous détailler un petit peu plus l'histoire du vieux foot dessin, un des livres du prix. Bonjour à vous, messieurs, pardon. C'est à vous, du coup. On vous écoute.
Bonjour à tous. Nous nous appelons
Marvin,
Salim,
Mehdi.
Nous allons vous parler d'Okusai et du livre Le vieux foot de dessin, de François Place. On parle de ce livre parce qu'on l'a lu dans le cadre du prix Janusz Korczak. Dans son livre, François Place parle de la rencontre d'un enfant avec un peintre qui a vraiment existé, Okusai.
Okusai est né en 1760 et mort en 1849. Il a commencé à dessiner vers les 1775. Il a fait beaucoup de dessins. Ses dessins s'appellent des estampes. Okusai est l'inventeur des mangas. Je vais vous faire un petit résumé du vieux foot dessin.
Il était une fois au Japon, au cœur du 19e siècle. Tojiro, le petit vendeur de rue, il rencontre un curieux vieil homme. C'est Katsushika Okusai, le vieillard foot de dessin. Le plus grand artiste japonais, le maître des estampes, l'inventeur des mangas. Okusai va apprendre à Tojiro à faire des estampes, de dessins, des peintures. J'ai bien aimé le livre et les illustrations sont bien, surtout la grande vague, on dirait qu'elle est bloquée dans le temps. C'est le livre qui a gagné le prix Janusz Korczak.
Merci de nous avoir écoutés.
Eh ben merci à vous Marvin, Salim et Mehdi. Voilà, on en a pris un petit peu plus, notamment sur la entre guillemets paternité des mangas. On va écouter un extrait des lectures d'un des livres qui a été enregistré cette année par Principe Actif, à savoir Martin des Colibris. C'est illustré par Judith Gueffier. Et j'ai un trou de mémoire sur l'auteur, ça va me revenir juste après. Ce que je vous propose, c'est qu'on... Alain Serre, voilà, merci, on me glisse ça dans l'oreille. Martin Descolibri, Alain Serre et Judith Gueffier. Et c'est lu par les enfants de l'école Joliot-Curie.
Sur la mer reflète le soleil. Le ciel est jaune et la mer est orange. Les chercheurs sont sur le pont du bateau. Ils regardent la côte vert kaki du Brésil s'approcher. On se sent pratiquement dans la jungle, les premiers habitants accourent sur la plage pour les accueillir.
Ce matin, Martin est le premier levé. Ses yeux glissent sur l'immense cercle que, depuis un mois déjà, l'horizon dessine tout autour du bateau. Mais ce matin, Martin voit un point vibrer dans le ciel et, peu à peu, devenir un oiseau. Il prévient aussitôt la vigie qui réveille tout le bateau. « Terre, terre, en vue à bâbord, l'Amérique c'est pour bientôt !» Mais l'approche est interminable. Quand la coquille finit par accoster sur la plage de Santa Catarina, que les premiers Brésiliens accourent étonnés, Martin s'agite un seul mot à la bouche. « Colibri, colibri, colibri !» Les enfants réécrivent autour de lui « Estem miyodo eum beya flor !» Ce gamin est un colibri.
Martin et René Primevert découvrent la forêt brésilienne. L'enfant observe les colibris qui butinent le pistil d'hibiscus rose bonbon. Les ailes de l'un d'eux ressemblent à des feuilles. L'autre est bleu-vert avec quelques plumes jaunes, rouges et mauves. Le naturaliste explore la nature. Un arbre violet aubergine, des palmiers vert kaki, des plantes exotiques de toutes les couleurs.
La nuit a été courte. Tout le monde a beaucoup parlé, échangé de grands gestes d'amitié et des fruits étranges contre des hameçons. Des perles de verre et du tissu rouge pour dire que ce n'était pas une nouvelle fois la guerre qui débarquait, mais l'envie d'apprendre et de connaître. Aux premières lueurs du jour, René Primevert et Martin pénètrent sans bruit dans la forêt. Les fleurs d'hibiscus s'ouvrent à peine, mais claironnent déjà leurs roses vives. Des minuscules oiseaux, verts, jaunes et violets, plus rapides que la pluie, se précipitent pour voler quelques notes de rosée. Ils s'immobilisent dans l'air, se balancent, virevoltent, volettent, même en arrière. Martin est fasciné. Il s'empresse d'ouvrir sa gibecière pour dessiner ses tout premiers colibris. Mais René Primevert le calme. Il l'assoit à ses côtés et lui demande de respirer lentement toute la beauté de la forêt avant de commencer méthodiquement l'observation.
Voilà, extrait de Martin des Colibris, texte d'Alain Serre, illustration Judith Gueffier. C'était enregistré par les enfants de l'école Joliot-Curie, ici à la Madeleine. C'était enregistré également par Principe Actif. Et ces livres qui sont enregistrés sont redonnés, redistribués, je ne sais pas comment, quel terme on peut employer exactement, à la Bibliothèque Sonore. On va retrouver justement quelqu'un de la Bibliothèque Sonore, à savoir Madame Pietrica. Voilà, elle va être interviewée par Shaïma, Benny, Alexandre et Magdalena, des enfants de l'école Michelet. Ben bonjour à tous et puis je vous laisse en bonne compagnie.
Merci. Bonjour Madame Pi.
Bonjour.
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 Bonjour tous.
Bonjour Madame Pietrica. Quand avez-vous commencé la bibliothèque sonore?
Alors je n'ai pas commencé la bibliothèque sonore, qui existe depuis fort longtemps, puisque les bibliothèques sonores en France existent depuis 40 ans. Moi, je suis rentrée à la bibliothèque sonore d'Évreux il y a 10 ans. Lorsque j'ai été à la retraite, j'avais du temps libre, j'adore les livres, comme tout le monde ici, et j'aime également lire à haute voix, donc j'ai commencé à travailler à la bibliothèque sonore il y a 10 ans.
Avez-vous beaucoup de clients?
Alors, nous ne parlons pas de clients, parce que les gens qui viennent nous voir, nous n'avons rien à vendre, ils ne viennent pas acheter chez nous. Nous enregistrons des livres sur des CD MP3, des clés USB, et nous prêtons ces livres à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les aveugles, les malvoyants. Et depuis quelques années, nous sommes les pionniers à Évreux pour ça, nous avons mis en route tout un service pour les enfants qui ont du mal à lire, qui sont dyslexiques, et nous enregistrons donc des livres de littérature scolaire pour les enfants. Voilà ce que nous faisons à la Bibliothèque Sonore. Nous n'avons pas de clients, nous avons des audiolecteurs.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, ce n'est pas un métier. Mon métier, c'était d'être professeur de français. Ce n'est pas un métier. Je fais ça bénévolement. Ça veut dire que nous ne sommes pas payés pour faire ce travail. Et j'ai choisi de faire ce... Alors, j'ose pas dire travail, parce que c'est presque un plaisir, parce que j'aime les livres et que j'aime, comme le disait Madame tout à l'heure, faire partager mon goût pour les livres. Donc, c'est tout naturellement, après mon métier de professeur, que je me suis engagée à la Bibliothèque Sonore.
Avez-vous déjà exercé un autre métier avant celui-là ?
Eh oui, je viens d'en parler. Pendant très longtemps, j'ai enseigné à des enfants comme vous. Et c'est pour ça que j'ai toujours un grand plaisir à revenir dans une école, retrouver des enfants qui aiment lire, retrouver des enseignants qui font lire leurs élèves. C'est toujours un grand plaisir pour moi.
Quand vous étiez petite, quel métier voulez-vous faire ?
Eh bien, quand j'étais petite, bizarrement, je voulais être poète. J'aimais la poésie, je lisais de la poésie, j'essayais de gribouiller de la poésie. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas un métier, que c'était quoi ? Une vocation, que c'était... Est-ce qu'on peut parler d'un métier quand on parle de poète ? Donc ce que je sais, c'est que lorsque j'étais petite, j'aimais beaucoup écrire. Beaucoup, beaucoup. Et c'est la suite logique. Après, quand on ne peut pas écrire, eh bien, on lit ce que les autres ont écrit.
Mais en fait, c'est quoi la bibliothèque sonore ?
Ah voilà, une bonne question. Une bibliothèque sonore, c'est une bibliothèque où il n'y a pas de livres en papier, mais où il y a des disques, des MP3 qui sont prêtés ou des clés USB où les livres sont enregistrés. Par exemple, si vous prenez Martin des Colibris, on enregistre ça devant l'ordinateur, on grave ça sur un CD, ça vient à la bibliothèque sonore et c'est ensuite prêté à ceux qui en ont besoin.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le prix Janusz Korczak ?
Alors, ce qui me plaît dans ce prix, c'est pas la première année que je viens participer à cette action. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. D'abord, le choix du personnage. Pardon, excusez-moi. Janusz Korczak, qui est quand même pas n'importe qui. Ça pourrait être un maître à penser. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est donc un personnage qui est particulièrement intéressant. Ensuite, le choix des livres, qui est toujours très varié. Comme le disait Madame, on a de tout. On a des albums, on a des romans plus ou moins difficiles. C'est toujours un très joli choix de livres pour les élèves de votre âge. Et je trouve que c'est une bonne idée pour faire lire les élèves. Et j'espère qu'avec ce prix, vous avez pris le goût à la lecture, si vous ne l'aviez pas déjà.
Pardon. Aimez-vous la littérature ?
Ah, j'adore la littérature. Et alors, je vais vous dire, je suis bien servie parce que, comme je suis à la Bibliothèque Sonore, j'enregistre des livres. Le dernier livre que j'ai enregistré, c'est « L'été de Silvio » de Jean Comnoguès. C'est un livre pour les enfants de 6e, disons. Donc j'enregistre des livres et surtout, je contrôle les enregistrements. Ça veut dire les livres qui arrivent à notre bibliothèque, nous les écoutons, ce qui fait que je découvre des livres que je n'aurais jamais lus peut-être. Et c'est toujours très agréable. Mais j'aime la littérature, je ne pourrais pas vivre sans livres.
Au revoir, Madame Petrica.
Au revoir, les enfants, et merci de vos questions.
Merci à vous, Madame Petrica, d'être passée par nos micros. Merci à Shaïma, Benny, Alexandre et Magdalena pour ces questions, il me semble, fort pertinentes. Merci à vous. Donc, on rappelle que Martin des Colibris est le livre qui, cette année, a été enregistré par l'école Joliot-Curie et qu'il sera donc transmis à la Bibliothèque Sonore et donc à Madame Pietrica à l'issue de cette émission. On va retrouver une nouvelle chronique lue et écrite par Nailen et Christy autour d'un autre livre qui lui s'appelle Dans les yeux d'Angèle. Eh bien, je vous laisse la parole, mesdemoiselles. C'est un ouvrage qui traite de la culture tzigane, si je ne m'abuse. En tout cas, je vous laisse la parole, Naïlène et Christy, c'est à vous.
Bonjour, nous nous appelons Naïlène
et Christy.
Nous allons vous présenter un livre qui faisait partie du prix Janusz Korczak cette année. C'est Dans les yeux d'Angel. Il a été écrit par Cécile Romiguer et illustré par Sylvain Bruyère. Nous avons lu ce livre, nous l'avons trouvé intéressant. Ce livre parle d'un jeune garçon gitan qui est arrivé dans une classe. Tous les élèves le trouvent bizarre parce qu'il est différent.
Surtout Camille, et justement il s'assoit à côté de Camille. Elle n'est pas très contente car elle le trouve sale, moche et que ses habits sont démodés. On va vous lire le résumé. En fin de cours, Angel et Camille aperçoivent une grenouille. Et à cause de tout ça, tout bascule dans leur vie. Ils se rapprochent, ils se disputent, ils se connaissent mieux. Ils sont même devenus meilleurs amis. Grâce à ce livre, nous avons compris que ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air différent que nous ne pouvons pas devenir amis.
Pardon. Je commençais à perdre un peu le fil. Merci Naïlène et Christy pour cette chronique autour de l'ouvrage Dans les yeux d'Angèle. On va, avant de faire une petite pause musicale, écouter une chronique qui va être lue par Imen autour justement de la musique tzigane, puisque la prochaine pause musicale est en lien avec le thème, puisqu'à Principe Actif et avec les enfants des écoles de la Madène, on fait plutôt bien les choses. Imen, c'est à toi. Raconte-nous un petit peu ta vision de la musique tzigane.
Bonjour. Nous vous présentons cette musique qui a été créée par le groupe Taraf Doidou, originaire de Roumanie. Le titre est Dumba la Dumba. Les instruments principaux sont le violon et le piano. Cette musique est sortie en 1998. C'est un ensemble musical de Rome. Après avoir écouté une musique de ce thème, je vais vous lire quelques haïkus.
Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum-dacă-dum-a-la-ga-da-dum-a-la-la. Bălălău e mandatar la intercontinental, vinde carne fără oase la gage celui frumos. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Da, dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Nu te uita că sunt mică, că scos gardul din pământ. N-am dezbagă, sunt brunetă, dita mai par o talento. Ai dolo, da, da, dru, nu, da, 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 dru, nu, da, la. Ai dolo, da, da, dru, nu, da, 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 dru, nu, da, la.
Dumbala Dumba par le Taraf des Haïdouk. On retrouve Imen qui va nous lire quelques haïkus.
Voici les haïkus liés à ce thème tzigane et au livre Dans les yeux d'Angèle. Un fil d'amitié se tisse avec un gitan. Dans un camp, une caravane, c'est un gitan. Dans son regard, il y a un mystère à découvrir. Sa passion se voit rien que dans ses yeux.
Merci Imen pour ces quelques haïkus. On va retrouver une nouvelle chronique autour des droits des enfants. C'est un des thèmes, le thème même central de ce prix de littérature jeunesse Janusz Korczak. Vous l'avez compris, on a parlé un petit peu de la vie de ce pédagogue déporté à Treblinka pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, le droit des enfants est quelque chose qui revient régulièrement tous les ans dans ce prix de littérature jeunesse. On va donc écouter Justine et Jason qui ont écrit une petite chronique autour du droit des enfants. Bonjour à vous.
Bonjour à tous. Nous allons vous présenter la Convention sur les droits de l'enfant, signée par de nombreux pays dans le monde en 1989. Nous allons vous parler de plusieurs droits de l'enfant.
Les enfants ont le droit de s'exprimer, d'être entendus. Les enfants ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais pas de gros mots, parce qu'il faut respecter les droits des autres. L'enfant a le droit d'être protégé contre les mauvais traitements. Près de 40 millions d'enfants seraient victimes de maltraitance dans le monde. Parce qu'il y a des parents qui tapent leur enfant, dans ce cas-là, il faut appeler le 119.
Droit numéro 3, l'enfant a le droit à la liberté d'opinion. Dès qu'on est capable, on a le droit de donner notre avis à propos de tout ce qui nous concerne. Merci de nous avoir écoutés.
Eh bien, merci à vous, Justine et Jason, pour cette chronique et ce petit rappel autour des droits des enfants. On va maintenant accueillir pour ce dernier plateau les différents instituteurs, à savoir Monsieur Le Garec et Mademoiselle Bertrand. Alors on va commencer, priorité et honneur est fait aux femmes, bien évidemment. Donc Mademoiselle Bertrand, interviewée par certains de ses élèves. Mais avant ça, virgule.
Principe actif 102.4 FM. Principe actif 102.4 FM.
Voilà, on retrouve Monsieur Le Garec, Mademoiselle Bertrand, et ils sont accompagnés. Alors peut-être que j'en cite certains qui ne sont pas là, mais Jennifer, Lindsay, Marie-Kate et Safouane. Voilà. Eh bien les enfants, je vous laisse la parole. Safouane, je te transmets mon micro pour que tu puisses poser ta question quand ce sera ton tour.
Bonjour. Aimez-vous cette année le thème du prix littéraire?
Bonjour. Donc cette année, c'était l'écriture et la peinture. Effectivement, c'était un thème plutôt intéressant, étant donné que je suis en charge aussi des arts visuels à l'école et qu'on a énormément de projets par rapport à ça. Donc du coup, le thème du prix Janus cette année tombait très bien.
D'accord. Depuis combien de temps connaissez-vous le prix Janusz Korczak?
Ça va faire la troisième année qu'on fait ce prix, il me semble. Oui, la troisième année.
Qu'avez-vous préféré à la remise du prix Janusz Korczak?
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les dessins de Zahu en direct.
En quelle année avez-vous commencé le prix?
Ben, il y a 3 ans, donc je vous laisse faire les calculs.
Pourquoi aimez-vous les livres du prix?
Toujours même réponse que tout à l'heure, en fait, par rapport aux arts visuels, où moi j'ai une petite attirance pour tout ce qui est créatif, mais j'ai eu une petite préférence pour les yeux d'Angèle.
Moi j'ai préféré le livre sur le rêveur, et j'aime bien l'idée de raconter l'histoire d'un enfant, et après qui est devenu Pablo Neruda, donc c'est vrai que ça m'a touché. Et puis des fois, je vois moi dans le rêveur que Pablo Neruda, déjà enfant, était poète. Et des fois, moi, je vous regarde et je vous observe en imaginant ce que vous allez devenir adulte. Donc ça, c'est rigolo. J'ai bien aimé ce livre. Voilà.
Quand vous étiez petite, quel métier voulez-vous faire?
Quand j'étais petite, je voulais être princesse et je me suis vite rendu compte que c'était pas un métier.
Moi, je voulais être pilote de l'air, mais c'était un métier, mais voilà, j'ai changé.
Depuis combien de temps êtes-vous enseignante?
J'ai commencé à enseigner en 2004 ou 2005, donc ça fait 10 ans.
Et moi, ça fait 9 ans.
Quelles étaient les épreuves pour devenir enseignante?
Alors, il y avait des épreuves de mathématiques, de français.
De princesse.
De princesse, oui. Il fallait mettre sa jolie robe et sa couronne. Donc ça, j'ai très, très bien réussi. Et une fois qu'on avait réussi les maths et le français, on avait tout ce qui était sciences, histoire, géo, sport.
Parce que tu veux devenir enseignante, Jennifer?
Comment?
Tu veux devenir enseignante?
Non.
Tant pis.
Merci de vous.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et merci aussi à vous, les enfants, d'avoir posé ces questions. Il y avait quand même, je crois, quelques questions. Non? Il restait des questions? Ah, il restait des questions pour Monsieur Le Garec. Voilà. On va donc essayer de terminer cette émission avec quelques questions supplémentaires, notamment à Monsieur Le Garec, un des instituteurs. Et on retrouve pour cela Rose-Emmanuel, Lina, Nour et Maïsara. Que des demoiselles. Bonjour à vous, mesdemoiselles. Installez-vous, prenez place. Mettez vos casques si vous en avez à disposition. Tel est le cas. Voilà. Et ben c'est à vous. Je vous laisse poser vos questions.
Bonjour. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour devenir enseignant ?
Inspiré pour devenir enseignant, eh bien vous, les enfants. J'aimais travailler avec les enfants et puis leur apprendre plein de choses, faire en sorte qu'ils deviennent plus intelligents.
Combien de livres avez-vous lu dans le prix ?
J'ai lu tous les livres, rapidement.
Depuis combien de temps êtes-vous professeur ?
Donc ça fait encore 9 ans, toujours 9 ans que je suis enseignant.
Quel livre avez-vous aimé le plus ?
Donc moi j'ai préféré Le Rêveur, j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure pourquoi. Et c'est vrai que c'est un livre qui paraît imposant, mais je l'ai lu très rapidement. Et je crois que les élèves de ma classe qui ont lu ce livre l'ont aussi apprécié.
Aimez-vous les haïkus ?
Donc oui, j'aime beaucoup les haïkus, mais par contre c'est quelque chose que j'ai découvert cette année. Je ne connaissais pas, ça me faisait un peu peur. Au début, quand j'ai lu le livre des haïkus, j'ai pas forcément bien compris le concept et je me suis imprégné après des haïkus et surtout le fait d'en écrire, après on comprend mieux et c'est agréable. J'ai écrit des haïkus avec les élèves et c'était bien, c'était très sympa.
Êtes-vous déjà passé à la radio ?
Non, c'est ma première radio.
Pourquoi aimez-vous le prix Janusz Korczak ?
J'aime le prix Janusz Korczak parce que ça, à chaque fois, on a des livres qui sont vraiment riches. Et donc, moi, je découvre les livres avec vous. Hein. Je les lis au mois de septembre. Et puis après, à chaque fois, on découvre des livres qu'on adore. Quoi. Donc, c'est surtout pour ça que j'aime ce prix.
Avez-vous aimé les dessins de Zahu ?
Oui, il m'a beaucoup impressionné.
Merci.
Merci.
Merci pour vos questions.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci donc à Monsieur Le Garec, Mademoiselle Bertrand, aux élèves qui ont préparé les questions. Les dernières là, c'était. Je change de micro. Je remets un casque. Les dernières questions étaient posées par Rose-Emmanuel, Lina, Nour et Maïsara. On va conclure cette émission. Il est temps pour nous donc de rendre l'antenne. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission des quartiers, bien évidemment. Espérons-le l'an prochain pour ce prix de littérature jeunesse Janusz Korczak, avec une nouvelle sélection, avec un nouveau thème. J'ai entendu dire que le prochain thème serait autour des enfants et de la guerre. Il y aura évidemment de nouvelles histoires à raconter. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce projet, à cette émission, à savoir les élèves des écoles de La Forêt, Michelet et Joliot-Curie, évidemment leurs institutrices et instituteurs. On remercie également les partenaires de ce projet avec Annie Falzini, la librairie L'Oiseau Lire, ainsi que Madame Pietrica de la Bibliothèque Sonore. On remercie aussi et surtout Charles Petit qui a œuvré toute l'année pour que ce projet et cette émission puissent avoir lieu. Cette émission vous était donc proposée par Principe Actif, avec à la réalisation Jean Constantino. Elle sera bien évidemment à retrouver en podcast sur notre site internet www.principeactif.net. Bonne journée à l'écoute des programmes de Principe Actif. Mais avant de rendre définitivement à l'antenne, je crois qu'il y a une petite surprise. Je vais aller tendre le micro sans fil et puis on va assister à cette surprise en direct.
Combien y a-t-il de personnes qui aiment jouer à GTA V ?
Pourquoi Lionel Messi ne dit-il pas Messi ?
Pourquoi Évry à Paris fait-il si froid en hiver ?
Pourquoi n'apprend-on pas aux colibris à boire le nectar des fleurs du ciel ?
Pourquoi les girafes ont-elles un loco jusqu'au ciel ?
Pourquoi les poissons volants ne volent-ils pas la mer ?
Dis-moi, la Madeleine est-elle faite à la Madeleine ?
Les ordinateurs noirs sont-ils si intelligents ?
Pourquoi l'école existe-t-elle dans l'univers tout entier ?
Y a-t-il des bibliothèques qui sont sous l'eau pour les poissons ?
Croyez-vous avoir déjà vu une girafe voler un magasin ?
Si on chatouille un chat, va-t-il rire ou va-t-il miauler ?
Pourquoi le maître nous apprend-il des verbes conjugués ?
Pourquoi la calculatrice est-elle si forte en mathématiques?
Pourquoi les roses roses sont-elles aussi roses?
Dis-moi, pourquoi les chameaux ont-ils des bosses sur le dos?
Est-ce vrai que Madame Latour se sert d'une pelle pour creuser?
Pourquoi au paradis pleut-il des confettis?
La conjugaison est-elle paix ou n'a-t-elle que ses vers?